sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 237e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Ce soir, je suis avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Alexandre.
Ça doit faire un mois et demi que je ne suis pas venu dans le studio. Je suis content de vous retrouver. On va commencer avec la riposte graduée. Tiens, ça aurait pu être un point Adopi, mais là, c'est un point Adopi à l'échelle européenne. Parce que là, la riposte graduée, qui est quand même le cœur de la Adopi, est menacée de mort devant la justice européenne. Le 5 juillet prochain, la Cour de justice de l'Union européenne examinera un recours contre ce qui était la Adopi, maintenant dans le giron de l'Arcom, depuis sa fusion avec le CSA. L'enjeu, c'est l'accès aux données personnelles, puisque vous le savez sans doute, la Adopi, l'Arcom, en tout cas la riposte graduée, se base sur le fait qu'on récupère auprès des fournisseurs d'accès Internet les données de connexion. On sait que tel abonné s'est connecté à telle adresse IP à tel moment, cette adresse IP correspondant à un serveur mettant à disposition, un ordinateur mettant à disposition du contenu protégé par les droits d'auteur.
Une nuance, c'est attention, tu as repris ce qui avait été présenté pour la Adopi, mais c'est pas ce que fait la Adopi.
C'est pas vraiment ce que fait la Adopi.
Non, la Adopi,
c'est le partage.
La Adopi ne collecte pas les données. Elle laisse les autres collecter les données et lui signaler. Attention,
c'est basé, si la Adopi le fait, c'est basé sur cette collecte de données.
Oui, mais c'est la collecte de données faite par des opérateurs tiers.
Oui, par des organismes tiers, effectivement, et qui dénoncent la Adopi.
Sinon, c'est donner encore trop de pouvoir à du service public. Parce que la Adopi étant une administration publique, c'est un service public.
La Adopi le fait grâce à cette collecte de données et grâce à la possibilité de le faire. Et donc, c'est cela qui est donc attaqué devant la Cour de justice de l'Union européenne, Pierre.
Oui, tout à fait, parce que le problème c'est que la Adopi le fait, mais en plus, il n'y a qu'une seule entité qui gère tout, alors que normalement, dans ce genre de traitement, on est censé séparer. On est censé avoir une entité qui va collecter des données brutes sans données personnelles, une entité qui va recroiser derrière et tout. Là, c'est un seul gros blubiblouka, donc c'est l'un des axes de défense. Ça va être ça, parce que il commence à y avoir de plus en plus. Ça fait maintenant, avec la mise en place du RGPD, donc c'était il y a 3 ans le RGPD, je crois, même peut-être 4. Donc on a eu une sévère mise au carré de la gestion des données personnelles en Europe. Et donc là, de plus en plus, maintenant, la jurisprudence, elle commence à dire « Non mais ça, c'est une donnée personnelle, on fait pas n'importe quoi avec, c'est sensible, on joue pas ». Alors aujourd'hui, des opérateurs privés comme Google, Facebook ou autres continuent de jouer, mais quand on a des organismes publics qui continuent à jouer, forcément ça pose problème. En tout cas, c'est l'avis de la Quadrature du Net, la Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatif, francilien.net et French Data Network, donc qui ont saisi le Conseil d'État qui a transmis à la juridiction européenne une série de questions. Donc, pour savoir, la question de départ, c'est les données d'identité civile correspondant à une adresse IP sont-elles au nombre des données relatives au trafic ou de localisation soumises en principe à l'obligation d'un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante dotée d'un pouvoir contraignant.
On passe au feuilleton du printemps qui va également devenir le feuilleton de l'été.
Attends, tu m'en as laissé. Il y avait juste une deuxième ligne concernant la Adopi.
Pierre, je te laisse continuer la deuxième ligne concernant la Adopi.
Parce que celle-là, elle était rigolote, cette deuxième ligne. C'est la Adopi qui, dans un rapport, a dit « Les effets de la procédure de réponse graduée sont aujourd'hui indiscutables. » La Adopi est fière du travail de la Adopi.
Netflix, c'est grâce à eux.
Oui, exactement. Tout à fait. Voilà, je trouve.
Ils ont fait des effets jusqu'aux États-Unis.
Voilà, les Netflix, Disney+, Amazon Prime
et tout le Tatooine.
Voilà, c'est eux. On peut être fiers. Ils ont créé un service de diffusion de contenu culturel français, qui plus est, c'est magnifique.
C'est Salto, où tu payes pour des pubs.
Oui, j'avais oublié cela. Donc vas-y.
Donc voilà, c'était donc le feuilleton de printemps, qui devient le feuilleton de l'été, c'est le blocage des sites pornographiques réclamés par l'ARCOM. Toujours, on reste avec nos mêmes amis. Sauf que le sujet fait à peu près consensus, pas d'un niveau technique, mais je dirais que voilà, le blocage de des sites qui proposent du contenu interdit aux mineurs, dans l'opinion publique en tout cas, c'est présenté comme une mesure de bon sens.
Oui, attention.
Et c'est le problème du bon sens.
Attention avec le choix des mots sur ce sujet. Le consensus m'habite, tout à fait. Il y en a d'autres, des jeux de mots faciles, surtout que là, ils nous en offrent des jeux de mots.
Attends, je n'ai commis aucun jeu de mots, s'il te plaît.
Oui, oui.
Il y a provocation au jeu de mots, c'est ce que tu me reproches.
Écoute, dans les actualités, donc, alors, on a deux actualités là-dessus.
Alors, hein, Pierre, donc, si vraiment tu veux faire le malin comme ça, je t'invite à trouver une contre-pétrie durant ce sujet.
Aïe. D'accord.
C'est ton défi.
Je chercherai. Donc là, dans le sujet, donc il y en a deux. Donc il y a Pornhub qui va voir le Conseil constitutionnel avec une question prioritaire de constitutionnalité concernant donc le blocage. Alors bon, en gros, c'est le fait que c'est mignon d'avoir une loi qui dit il faut que les sites contrôlent, mais ça dit pas comment qu'on est censé faire. Ça nous donne aucun moyen de contrôler, donc c'est mignon, mais cette loi est inapplicable et donc cette loi est caduque.
Parce que bon, ils invoquent quand même la liberté d'expression, la liberté de communication. Bon, étant donné que c'est plutôt des gens qui se font de l'argent sur le dos de femmes plus ou moins consentante, mais en tout cas, enfin, qui exploite.
Ah oui, c'est pas des anges. Hein.
Mais enfin, même si, voilà, c'est pire parce que c'est même pas des producteurs, c'est même pas des gens qui assument. En fait, c'est des gens qui souvent volent en plus des productions d'autres sociétés pour se faire de l'argent avec.
Oui, mais sauf que quand on veut lutter contre ce genre d'organisme, on lutte sérieusement. On commence pas à essayer de lutter avec des textes à côté qui visent beaucoup plus large et en plus qui ont des problèmes de rédaction majeurs. Donc là, en gros, ils considèrent que la proposition de loi de blocage, la loi qui impose le blocage avec l'infraction comme ça, c'est une atteinte qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi. Surtout que, depuis, il y a une loi qui impose le contrôle parental. Donc, c'est marrant de faire les deux. Et sinon, une autre, alors, je suis obligé de la faire, celle-là. Il s'est fait exprès. Hein,
Alexandre. Tu as le droit de faire tout le sujet qui sont sur le wiki, Pierre.
Donc, l'audience concernant le blocage donc des sites, des 5 sites qui apparemment sont les seuls sites pornographiques visités en France, hein, si je me fie au recours, l'audience sera organisée le 6-9.
J'avoue, fallait.
C'est pas moi.
Fallait le faire.
C'est pas moi, c'est eux.
C'est eux qui ont dit que ça sera le 6 septembre. Greffier un petit peu.
Mais non.
Plaisantin.
Donc voilà, c'est. Ça va être intéressante, hein. Ça part dans tous les sens de toute façon. On verra ce que ça va donner. Pour rappel, hein, c'est des procédures qui tournent depuis des années. Donc là, on en a parlé toute l'année. J'ai l'impression que toutes les deux semaines, on a parlé de ces trucs-là. Ça n'arrête pas. On verra la suite. Hein. On verra dans quelques. Je sais pas combien d'émissions on fera cet été. Hein. On approche de la trêve estivale, mais on verra à la rentrée. Je pense qu'on va encore s'amuser. Donc on reparlera de tout ça en septembre.
Christian Estrosi a dit une bêtise. Alors c'est pas une info, mais bon, c'est quand même une bêtise qui nous concerne. Alors, on parle pas de l'ARCOM, mais de la CNIL. Et il la trouve ringarde.
Tout à fait, oui.
Institution inutile.
Donc,
bon, on se rappelle que c'est quand même le promoteur de la reconnaissance faciale dans sa bonne ville de Nice. M'étonne qu'il soit pas content.
Et donc, il considère que la CNIL, devrait autoriser, voyons, la reconnaissance faciale. C'est la CNIL, j'essaye de retrouver ces mots parce que j'ai mal mis mon lien dans le wiki, ça m'arrive. Voilà, la CNIL est une, je cite, espèce d'institution poussiéreuse. Et donc le site Next Impact a mis entre parenthèses une petite remarque fort sympathique. Donc Christian Estrosi, 66 ans, s'attaque à la CNIL, 44 ans. Déjà, c'est un bon départ.
C'est pas beau de faire ça
sur
l'âge, Pierre.
C'est pas beau, mais de traiter de poussiéreux un organisme qui a 22 ans de moins que toi, je trouve ça déjà rigolo. Et donc, Alors, je cite, il souhaiterait qu'enfin on mette un coup d'arrêt à ce que nous interdit la CNIL, cette espèce d'institution poussiéreuse qui s'appuie encore sur la loi de 78, sécurité informatique et liberté, c'est pas le vrai titre de la loi, qui interdit aussi bien aux collectivités, voire à l'État, voire aux organisateurs de grands événements d'utiliser la reconnaissance faciale.
Pendant ce temps-là, à Shanghai, donc ouais. À la sortie du confinement, hein, Shanghai qui a été à qui on a réimposé un confinement suite à la politique on va dire, chinoise du zéro Covid, va donc mettre en service 2 millions de sentinelles numériques chargées de contrôler la température, l'état de la vaccination et les résultats de Covid-19, donc pour vérifier que les gens qui sont présents dans la rue, les gens qui circulent ne sont pas soumis à une mesure de quarantaine en utilisant la reconnaissance faciale.
La Chine est déjà le paradis de la reconnaissance faciale, hein. On n'est pas à ça près là-bas.
Mais donc dans des endroits tels que les hôpitaux, les centres commerciaux ou les immeubles de bureaux.
Ou les rassemblements de l'opposition. Ou...
La quoi ?
Ouais.
Mais pardon.
Des gens qui sont parfaitement d'accord avec le régime et son fonctionnement et qui sont d'accord avec leur grand leader. Et qui cherchent à l'exprimer autrement mais qui ne se rendent pas compte que leur expression n'est pas correcte.
Donc si ça se trouve, monsieur Estrosi, la CNIL a quand même certaine utilité toujours.
Ah bon ? Tu veux dire que c'est interdit d'avoir une reconnaissance faciale à l'entrée d'un lycée ? Pour reconnaître toutes les personnes qui rentrent et les fichiers comme ça ?
Qu'avoir un organisme tel que la CNIL permet d'éviter certaines dérives.
Surtout quand, à chaque fois, ça aussi c'est un point qui est rigolo, c'est là, l'article que tu viens de citer pour la Chine, c'est alors que la Chine est un État, entre guillemets, fort, c'est un gros État qui...
Oui, avec un pouvoir, on peut dire un pouvoir fort, oui. Hein.
C'est un marché qu'ils viennent de créer, qui sous-traite à du privé. En France, on sous-traite des tas de trucs au privé, y compris des trucs de reconnaissance faciale, et ça aussi, c'est un petit peu choquant. On va sous-traiter un opérateur privé de la reconnaissance faciale. Enfin,
c'est la problématique, hein. Là, c'est pour le Covid. Et c'est vrai que, alors, c'était pour la bonne cause, hein.
Il y a toujours une bonne cause
sanitaire, mais ça fait beaucoup pour l'acceptation de certaines mesures.
On reparle de la bonne cause du fichage ADN. Oui, c'est pour les pédophiles. Maintenant, on a eu des faucheurs. C'est allé jusqu'à des faucheurs d'OGM qui ont été.
Non, c'est quand on a dû quand même accepter des restrictions de liberté.
Avec le Covid, aussi, oui.
Voilà, ça a quand même habitué le grand public à accepter des restrictions de liberté, même si elles sont justifiées. Mais c'est d'où la nécessité d'avoir des garde-fous et un contrôle démocratique fort pour permettre que ce soit limité à des cas réellement exceptionnels. On va écouter un premier morceau de musique. Nous allons écouter Tab Junko. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com.
Tornado, and we don't know we're passing through a jingle ready afternoon. Tell me who comes after who is calling. Standing here, teach me how to racketeer. The future and the past are here. Community, we can stop the tears. We can
can pause it, we can stop the year. Fast forward, we are trapped in here. I haven't stopped it, I don't know what's there. I guess I got it on the first try. I forgot it, I don't know why. Chase it like the first time. It's poison in the first bite.
C'était Tab Junko, vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est la deuxième partie des actualités. On va parler logiciel et même logiciel libre. Pierre, tu veux nous parler du métier de mainteneur de logiciel libre, s'entend un métier qui est pas facile.
Et surtout un métier spécifique. C'est pas facile et en plus, c'est pas le même métier que le métier de développeur. Donc là, en fait, ces dernières semaines, il y a eu une grosse conférence autour. Alors, c'est la Linux Storage File System Memory Management and BPF Summit. C'est très, très, très technique. Je ne m'amuse pas à vous faire des résumés de toutes les conférences là-bas. Moi, je les trouve très intéressantes, mais en format radio, sans schéma, sans rien pour expliquer, c'est vraiment pas adapté. Par contre, là, il y a une petite présentation que je trouvais assez intéressante sur le fait que, on parle de scalabilité dans l'informatique, dans la Bullshit Nation. Donc la scalabilité, c'est la montée en charge. Le fait que au plus il y a de charge, plus il y a de charge, plus il y a de ressources qui vont apparaître automagiquement dans le cloud pour s'occuper du truc et que ça va pas tomber en panne. Je vous le résume, mais c'est ça l'idée. C'est la charge augmente, ça survit. Et donc là, le fait que il y a eu une présentation et pas mal de discussions autour du fait que la maintenance des logiciels, les mainteneurs, ça ne monte pas en charge. Et effectivement, il y a toute une problématique dans le monde du logiciel libre en particulier, et donc là, dans le cas du noyau Linux. Le noyau Linux, c'est un logiciel libre favorisé parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui contribuent, que ce soit par des moyens, des ressources financières directes pour embaucher des stars comme du Linus Torvalds qui est payé depuis des années pour travailler sur Linux par la Linux Foundation, ou des entreprises comme Red Hat qui embauchent beaucoup de personnes pour faire des correctifs, des améliorations sur le Linux, et qui du coup deviennent des mainteneurs de certaines parties du noyau. Mais il y a eu toute une discussion sur le fait que ben, c'est très compliqué d'être vraiment mainteneur sur une partie importante du noyau Linux parce que la charge est très 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 importante. Il ne suffit pas d'être un bon développeur, il faut être un bon communicant, il faut avoir une vision technique claire, il faut avoir l'esprit clair pour faire le tri dans tout ce qui va arriver. Il y a des recherches automatiques de bugs, des recherches automatiques de failles de sécurité. Des fois, il y a des entreprises, il y a des gouvernements, le gouvernement américain, qui font des financements pour des recherches de bugs. Mais une fois que le bug a été trouvé, eh ben, c'est juste qu'il arrive dans la corbeille du mainteneur et c'est le mainteneur qui doit dire « Ah mince, non, il y a ça, ça c'est plus important que le reste. » Ou « Ah non, ça, oui, mais ça, ce truc de sécurité-là, non, c'est tellement tiré par les cheveux, c'est pas important tout de suite, c'est pas urgent. » Et en fait, il y a toute une réflexion sur quel est le rôle du mainteneur et comment faire. La solution n'est pas trouvée, hein. Vous n'attendez pas à ce que je dise à la fin comment ça doit être fait. Il y a toute une discussion sur comment faire pour que les mainteneurs, enfin déjà il y ait des mainteneurs pour tous les éléments du noyau Linux. On en a parlé il y a quelques semaines pour le pilote NTFS, on en reparlera juste après. Comment faire pour qu'il y ait des mainteneurs pour tous les éléments du noyau Linux? Comment s'assurer qu'ils répondent réellement, que ce ne soit pas une entreprise qui a mis quelqu'un mais le quelqu'un s'est barré et personne n'a été notifié? Et comment faire pour qu'ils puissent vraiment gérer une charge de travail et un métier qui est spécifique, qui n'est pas le métier de développeur. Ça nécessite les compétences d'un bon développeur, mais ça nécessite surtout d'avoir une vision plus globale et d'avoir, plus que la vision, l'envie de faire quelque chose de plus global et de faire moins de technique. Ce qui n'est pas gagné, hein. Moi, pour ma part, je préfère faire de la technique plutôt que de faire de la gestion d'équipe ou de la gestion de... Ben là, du suivi de tickets à la con, de dire...
C'est deux métiers différents. Hein.
Ah, c'est deux métiers différents, mais...
Et pour bien le faire, il faut quand même avoir une sensibilité sur la technique. Oui. De quoi on parle, parce que sinon, on commence à manager avec des indicateurs...
Puis là, le métier de maintenant dans le logiciel libre, c'est aussi une vision technique. Donc tu ne peux pas être complètement déconnecté de la technique. Donc c'est un métier à part, qui est très compliqué, et finalement... Ben, y a pas de gens qui sont formés pour ça. À chaque fois, ça va être tu deviens mainteneur sur le tas. Et c'est pas facile. C'est vraiment une position qui est difficile et il y a peu de ressources aujourd'hui pour aider ça. Donc c'est bien qu'il y ait des communautés, ben comme la communauté du noyau Linux, qui réfléchissent à ce problème-là. On verra un petit peu comment ça s'améliore pour que les gens qui arrivent sur ces positions-là le fassent sans se mettre en difficulté, ou pour que des gens puissent être amenés sur ces positions-là quand il y a des positions qui sont en manque de personnes.
Le pilote NTFS 3 est vivant.
Tout à fait. On rebondit par rapport aux questions de mainteneur. On en avait parlé, je ne sais plus, c'était il y a un ou deux mois, je ne sais plus du tout. Le pilote NTFS dans le Linux a été considérablement amélioré je pense que c'était l'année dernière. Donc il y a eu l'entreprise Paragon Software qui a fourni au noyau Linux un nouveau pilote pour le système de fichiers de Microsoft Windows. Et donc, qui était un vrai pas en avant, hein, puisque contrairement au précédent, il gère la lecture et l'écriture, il a un ensemble de fonctionnalités plus avancées que le précédent.
NTFS 3, c'est le nom du module ou
c'est le nom du module.
C'est pas la troisième version de...
En fait, c'est aussi, je me demande si je ne gère pas d'ailleurs que la troisième version de NTFS qui date de Windows 2000, si ma mémoire est bonne. Sauf que depuis, il y a eu des évolutions mineures. Il me semble que NTFS 2, c'était NT 4. Mais je peux me tromper, hein. Je ne connais pas par cœur les versions internes de Microsoft, faut pas déconner. Et donc le pilote a été fourni au noyau Linux l'année dernière, sauf que depuis, il y a eu des rapports de bugs, il y a des problèmes qui ont été signalés, des patchs qui ont été proposés, et personne. La personne qui était inscrite en mainteneur ne répondait pas. Donc depuis, il y a eu une certaine inquiétude, il y a eu des gens qui ont commencé à dire « Est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer ce pilote ?» et puis on reprend un effort de développement sur le pilote qu'on avait déjà. Et finalement, là, ça date d'il y a quelques semaines, le mainteneur qui avait été nommé est de retour, donc il s'excuse il s'est excusé d'avoir été absent, et il a envoyé un ensemble de correctifs, il a réintégré des changements qui avaient été envoyés par des personnes, etc. Donc c'est un peu rassurant, parce que sinon ça aurait été vraiment triste qu'on se retrouve avec encore une entreprise qui abandonne du code et qui dise « Bon, maintenant qu'on l'a mis, c'est plus notre problème. » Maintenant on verra si c'est une reprise temporaire ou si finalement ça va continuer à clignoter comme ça et si ça se met à agacer les développeurs du noyau Linux.
Et le pilote DWC3 ne sera jamais terminé. Alors peux-tu me rappeler ce qu'est le pilote DWC3 pour ceux qui ne connaissent pas par cœur la liste des modules noyaux qui sont sur leur système?
Alors, le pilote DWC3, c'est le pilote des fameuses puces de Designware, donc de Synopsys, pour la gestion de l'USB. Petit... En fait, je trouve que c'est un cas qui est vraiment très intéressant, c'est pour ça que je l'ai mis, même si c'est assez technique. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le DWC3? Alors en fait, c'est pas une puce, c'est un petit raccourci de ma part. C'est une propriété intellectuelle de l'entreprise Synopsys. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pas une puce, c'est un schéma de contrôleur USB 3. Et donc, l'entreprise Synopsys vend ce schéma à différents fabricants de puces, donc du Samsung, du Texas Instruments, du Qualcomm et d'autres. Du Broadcom aussi, je crois. Quoique c'est les Raspberry, je crois que c'est du DWC2. Même certaines cartes mères pour des processeurs Intel ou AMD intègrent cette puce. Donc la puce DWC3. Mais, c'est, en fait, voilà, vous voyez, j'ai encore fourché. C'est pas une puce DWC3 qu'ils intègrent, c'est un schéma. Et le schéma, eh ben, il se trouve que chaque fabricant va faire des modifications dessus, plus ou moins volontairement et plus ou moins importante. Et donc, il y a un pilote qui a été soumis au Noyau Linux. Alors, je ne sais pas s'il a été soumis au Noyau Linux à partir du schéma de la puce elle-même, enfin, à partir du schéma, ou s'il a été soumis à partir d'une puce qui avait été mise sur le marché. Et en fait, là, la conclusion des développeurs du Noyau Linux, c'est que ce pilote ne sera sûrement jamais terminé. Parce que toutes les puces qui ont été réalisées à partir de cette propriété intellectuelle, toutes ces puces ont des variations mineures, mais suffisantes pour que le pilote ne puisse pas marcher tel quel. Et je trouve que c'est grave d'en arriver à ce genre de stupidité, c'est-à-dire qu'on va avoir un matériel qui est... C'est la même puce, c'est le même nom, c'est le même composant, mais finalement, dans la machine A, il va marcher, mais la machine B, qui est vendue par tel fabricant, eh ben, il ne va pas marcher, parce que le fabricant B, il aura fait une toute petite modification, et du coup, non.
C'est comme les vendeurs de matériel qui, sous un numéro de série, font des très légères différences.
Ah, des fois, c'est même plus vicieux. Des fois, c'est sous le même numéro de série, c'est pas la même puce.
Oui, mais qui vend des références identiques, avec le même numéro de série, avec des légers changements de matériel. Et quand tu dois faire quelque chose du logiciel qui doit fonctionner avec un matériel très précis, quand tu commandes, t'es pas sûr de retrouver le même résultat.
C'est exactement ça, et j'ai l'impression que tu parles de ton boulot, toi. T'as pas le droit de répondre à cette question, je sais. C'est pour
sinon,
ça que c'est rigolo de
sinon
te la poser.
Je vais te tuer, et après on fera plus l'écho des gnous, et ce serait quand même fort dommage.
On continue avec les vrais logiciels.
On continue avec les jeux utilisant donc la librairie libre. Open source ou libre?
SDL. Libre.
Pour être rendu disponible sur Xbox prochainement.
Tout à fait. Alors, c'est un premier patch qui a été proposé sur la bibliothèque SDL et qui a été intégré pour permettre aux jeux utilisant la bibliothèque SDL de cibler, d'avoir un affichage avec DirectX 12. Et là où c'est important, c'est que, a priori, ça pourrait permettre de rendre ça compatible avec le Xbox Game Development Kit, qui permettrait ensuite de proposer des jeux réalisés avec des éléments libres pour le Microsoft Xbox Game Pass for PC on Windows 10 11 pour les consoles Xbox et aussi le Xbox Game Pass Ultimate Cloud Gaming. J'adore les nouveaux noms hein, chez Microsoft, c'est magnifique. Donc, alors certes, tout ça c'est du pas libre, mais c'est intéressant de voir que des logiciels libres vont permettre de développer des jeux qui seront compatibles avec ces consoles et avec ces environnements. Ça peut donner envie à plus de gens d'utiliser ça pour des jeux. Alors c'est plutôt des jeux en 2D qui vont être réalisés avec cette bibliothèque-là. Mais voilà, c'est une bonne nouvelle, je trouve. Si ça peut augmenter le nombre de jeux développés avec cette bibliothèque et du coup le nombre de retours et d'améliorations sur cette bibliothèque, c'est toujours bienvenu.
On termine avec le logiciel libre avec la sortie d'une version d'un logiciel très utilisé, un logiciel emblématique libre, c'est Inkscape, donc l'éditeur de dessin vectoriel qui sort en version 1.2. Donc parmi les améliorations, donc un écran de démarrage un petit peu plus soigné et donc plus attractif, enfin pas dire attractif, j'essaie de trouver le mot, plus accueillant, voilà.
Plus mignon,
enfin,
chaton mignon, voilà,
plus chatoyant.
et surtout de bien meilleures performances dans la version macOS. Et quand on sait que dans le monde du graphisme, ce système d'exploitation est quand même très utilisé, bon, ça permet quand même d'avoir un outil libre de plus, bon, même si ça reste sur un système fermé, pourquoi pas, ça peut permettre de, d'être une porte d'entrée vers le libre tel que ben, Firefox ou LibreOffice ont pu l'être. Donc,
et contrairement à il y a deux semaines...
Bon courage aux mainteneurs de ce logiciel.
Tout à fait, il y a deux semaines j'avais parlé très très rapidement de ça parce que ça ne me parle pas du tout ce logiciel, et là il y a une brève qui est sortie, une dépêche sur LinuxFR, donc n'hésitez pas à la consulter, qui détaille beaucoup plus et en français ce qui a été fait dedans et qui l'explique assez bien.
Inkscape, tu connaissais quand même.
Ouais, mais je sais pas du tout ce qu'on fait avec, et je, enfin, moi les logiciels de graphisme ça fait deux, hein. J'ai déjà essayé de faire un rectangle avec un dégradé sur Inkscape, j'ai jamais réussi, hein. Parce que juste je suis pas bon. C'est tout, je suis pas bon en graphisme, je sais pas choisir des couleurs. Mais donc là, il y a une dépêche sur LinuxFR qui est assez bien faite, avec beaucoup de détails, qui parle aussi d'extensions qui sont disponibles dans Inkscape, ce que je ne connaissais pas du tout, donc ça peut être pas mal. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. LinuxFR.org.
Notamment une pour faire des figures scientifiques.
Tout à fait, c'est celle-là que j'ai vue, ça m'a l'air rigolo.
Donc on a été attiré par la même chose, Pierre.
Ouais.
Donc ça donne aussi des astuces, hein, des trucs et astuces d'utilisateurs avancés de Inkscape. Donc n'hésitez pas. Et d'ailleurs, de manière générale, n'hésitez pas à consulter linuxfr.org. On va écouter un second morceau de musique. Nous allons donc nous retrouver après Social Square, Tantalizing, Yoff. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre.
Et campuslille.com.
Cross.
C'était Social Square, Tantalizing You. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus 106.6, la radio numérique terrestre, et campusil.com. C'est la troisième partie des actualités diverses et variées, mais toujours concernant le libre. L'État de New York légalise le droit à la réparabilité, Pierre.
Tout à fait. Donc c'est tout simple, c'est la première... Ils se vantent. Alors le site iFixit félicite en disant que New York adopte la première loi mondiale sur le droit à la réparation des appareils électroniques. Donc à partir de la mi-2023, les fabricants devront fournir aux consommateurs et aux ateliers de réparation pièces, outils, informations et logiciels nécessaires. Voilà. Donc si vous avez un fabricant qui, au hasard, développe son propre format de tête de vis propriétaire, pour avoir ses propres tournevis propriétaires, n'est-ce pas Apple ? Eh bien, il aura l'obligation de fournir les tournevis.
Ça ressemble un peu à la loi française sur l'obligation de réparabilité.
Ouais.
Enfin, c'est la loi contre l'obsolescence programmée.
Voilà, mais pas aussi précise. Elle n'est pas aussi complète, je crois, qu'actuellement.
Donc les Américains qui, qui se plaisent à moquer les tendances européennes et particulièrement françaises à la réglementation, au final, se rendent compte que, de temps en temps, une intervention de la puissance publique, c'est pas si mal que ça.
Et une note d'ailleurs concernant la France de la part d'iFixit, lorsque la France a promulgué sa loi sur l'étiquetage de réparabilité l'année dernière, puisque c'est ça ce qui est passé réellement, pas une obligation, mais surtout une obligation d'affichage, rien n'interdit de vendre des produits irréparables, nous avons vu des fabricants publier des manuels de réparation gratuitement en ligne, souvent pour la première fois. Et c'est vrai que ça changerait. Il y a des tas d'appareils, on ne parle pas uniquement d'ordinateurs ou de téléphones portables. On peut parler de réfrigérateurs, de yaourtières, je ne sais pas, de fours. N'importe quel appareil électronique, n'importe quel appareil d'usage comme ça, devrait être fourni avec un manuel de réparation. C'était le cas à une époque d'ailleurs.
Ah oui, je ne connais pas.
Les premiers appareils électroniques, c'était fourni avec des schémas, avec des explications beaucoup plus détaillées que ce qu'on a maintenant. Parce que...
J'aimerais bien avoir le schéma électronique d'un téléphone portable, tu vois.
Oui, voilà, c'est plus compliqué. Encore que, si tu veux trouver le schéma électronique du PinePhone, par exemple, tu peux.
Oui, bon, à part certains téléphones portables. Enfin, voilà. Les très intégrés tels que, voilà, des grands constructeurs, ça va être un petit peu plus compliqué.
Ouais, pas trop, il n'y a pas beaucoup de puces.
Alors, on nous présente ça comme un événement... Alors qu'au final, c'est déjà, la semaine suivante. Hein.
Ouais, attends, juste, par contre, il y a du positif pour New York, mais par contre, aux États-Unis, et ça, c'est ce que j'adore avec un État fédéral, c'est que New York, loi sur la réparabilité, Caroline du Nord, des vendeurs d'équipements agricoles bloquent un projet de loi sur le droit à la réparation. Puisque vendeur de tracteurs, c'est un peu pareil. Je crois qu'on avait parlé des tracteurs qui avaient été bloqués à distance. Et du coup, ils avaient été volés par les Russes en Ukraine et les Russes se rendent compte qu'ils ne peuvent pas s'en servir. Et bien là, c'est ce genre de vendeurs de matériel disent « Bah non, on veut pas parce que vous comprenez... »
Ils ne bloquent pas la loi avec leurs tracteurs. C'est pas comme les agriculteurs chez nous.
Non, ils n'ont pas mis de visier devant apparemment, mais ils ont juste fait suffisamment de lobbying pour bloquer. Et ils disent « Ouais, mais vous comprenez un système de... » Je sais plus la traduction, c'est pour certains systèmes de moteurs diesel avec une simple erreur de serrage de la ligne d'injection, ça peut être suffisant pour tuer une personne. Donc il faut faire c'est trop sérieux pour être laissé aux gens. Sauf que le droit à la réparabilité, c'est pas l'obligation de laisser les gens toucher à ce genre d'appareil. C'est pas que ça. Puis il n'y a pas besoin de manuel pour faire une erreur, malheureusement. Le manuel peut éviter certaines erreurs. Mais bon, voilà, tous les mauvais arguments sont bons.
Donc Pierre, on a entendu ça également dans les médias généralistes, c'était présenté comme une grande nouvelle, un événement.
Ah mais tout à fait.
Alors qu'au final, c'est l'établissement d'un état de fait qui était déjà réalisé. Hein. Il y avait déjà eu des lois, mais en tout cas de fortes directives à ce propos sur le chargeur universel. Bon, au final... à part un fabricant, il y avait déjà le standard de fait qui était le USB-C. Donc ça va obliger un acteur qui maintenant ne représente plus que quelques pourcents du marché
européen.
Alors quelques pourcents, je ne sais plus si c'est 5 ou 10 ou...
Oh, je ne sais plus.
Je ne sais plus l'ordre d'idée. Mais alors, à une époque où ils étaient le principal vendeur de smartphones, ça avait du sens. Maintenant, c'est plutôt eux qui font office de village gaulois, pour le coup, de village gaulois américain. de réticent. Au final, c'est surtout... je pense que ça perd de son sens. Enfin, ça perd de son sens. C'est plus un événement comme ça a pu être il y a 10 ans, quand, il y a 15 ans, quand c'est l'USB qui s'est imposé. Au final, là, pour le coup... En fait, on peut dire ce qu'on veut. L'événement des smartphones a quand même permis ça aussi.
Non. T'as pas lu tout le... Voilà, attention, ça a été présenté de manière un peu simplifiée, malheureusement. C'est plus que juste ça. C'est là où il faut faire attention. Quand je regarde sur mon... Je visualise mon bureau chez moi. Ce projet de loi supprime 1, 2, 3, peut-être 4 câbles et chargeurs spécifiques.
Il y en a encore beaucoup, parce que même les enceintes connectées, genre de choses en général, c'est comme de l'USB.
Oui, mais non, c'est pas le cas. Avec ma compagne, on a acheté une imprimante récemment pour imprimer une imprimante spécifiquement pour imprimer des photos. Et ben, j'ai un chargeur propriétaire pour délivrer une puissance de 40 watts, donc le truc qui se délivre très bien avec de l'USB-C. Et j'ai un chargeur propriétaire. Le jour où le chargeur crame, eh ben, tu te débrouilles, mon vieux. Tu retrouves un chargeur générique. Et chargeur générique, d'ailleurs.
T'as une imprimante avec chargeur, toi.
C'est l'adaptateur secteur.
Oui, l'adaptateur secteur. Mais ça concerne aussi l'adaptateur secteur.
Alors, en vertu des nouvelles règles, les consommateurs n'auront plus besoin d'un dispositif et d'un câble de charge différent à chaque fois qu'ils achètent un nouvel appareil et pourront utiliser un seul chargeur pour tous leurs appareils électroniques portables de petite et moyenne taille. La définition de portable. L'imprimante est portable. C'est une imprimante avec une petite batterie intégrée pour quand tu veux faire des impressions en déplacement en vitesse.
Tu n'as pas changé tout, ça ne concerne pas tous les transfos.
Non, mais en fait, ça va peut-être lancer un mouvement pour essayer de commencer à pousser.
Ça va lancer un mouvement, oui. Donc
c'est ce qu'on peut espérer, parce que si un fabricant d'imprimantes...
Ouais, donc ça concerne bien que les téléphones,
mais les ordinateurs portables aussi.
Assimilés.
Les ordinateurs portables aussi sont concernés.
Oui.
Et les ordinateurs portables, aujourd'hui, t'en as encore plein qui sont pas avec de l'USB-C. Là, pour le coup, j'étais mitigé sur l'USB-C.
T'arrives à charger un USB-C
Moi, mon ordinateur portable se charge en USB-C, ouais. Par contre, il faut un gros chargeur.
Il faut un chargeur sur 65 watts USB-C. Ouais, j'imaginais pas, en fait, l'USB-C avec
Et l'avantage, c'est que du coup, quand tu dois charger un téléphone portable et que t'as juste ton chargeur... En fait, t'es en déplacement, tu prends ton ordinateur portable avec son chargeur et t'as pas besoin d'autres câbles, d'autres chargeurs avec toi. Et si demain t'achètes un téléphone portable, ben mon PinePhone il t'est livré sans chargeur, et ben j'utilise le chargeur du PC. Et d'ailleurs ça fait une charge plus rapide. Donc non, c'est une bonne nouvelle. Il faut s'arrêter en disant oui c'est que les téléphones portables, au final ça change pas grand chose. Déjà ça vient faire chier Apple. J'ai un référentiel. Oui. Si ça emmerde Apple, c'est que c'est une bonne chose.
Mais c'est quand même un standard qui était.
C'était déjà un standard qui était de fait, l'USB-C. Ben, ça avait remplacé le micro
USB. Pour les ordinateurs, je suis d'accord, pour les ordinateurs portables, mais pour les casques audio, pour les enceintes Bluetooth.
Même les enceintes, on a des enceintes récentes à la
moi,
maison
j'ai du mini, qui sont
en micro USB. Si t'as du mini USB, c'est encore un autre format.
C'est du micro.
Là, nous, on a une imprimante avec il y a une prise USB A femelle, une prise mini USB, je crois, et à côté, une prise propriétaire pour le chargeur.
Pierre est content.
Ben, c'est quand même une bonne nouvelle. De toute façon, ça fait chier les fans d'Apple, donc c'est une bonne chose.
Ouais, je vois ce qui te motive quand même.
Faire chier les fans d'Apple.
Ouais. Une nouvelle news ou on passe à la musique ?
Une petite rigolote que j'ai vue passer là comme ça. Là, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, que c'est trop génial ceci, cela. Sur Google Maps... dans certains pays, Google Maps utilise son intelligence artificielle pour lire les menus des restaurants. Et là, il y a un site qui a publié beaucoup d'erreurs de Google Maps là-dessus. Donc, pour montrer à quel point l'intelligence artificielle est fantastique pour lire des menus. Donc là, par exemple, dans un restaurant, dans un lieu de restauration à Londres, où on a des burgers au poulet à 86 centimes de livre, mais aussi un burger à 810 livres et un autre à 10 dollars sur la même carte. Ok. Une autre dans...
Je prends celui à 86...
Voilà. Une autre, attention, en accompagnement, parce que je suis désolé, c'est en anglais, donc je traduis en direct, approximatif. Donc en accompagnement, il y a pour 44,99 livres plain paper. Du papier. accompagnement dans un restaurant. Il y a aussi du...
Mais c'est un restaurant conceptuel, Pierre. C'est ça. T'as pas compris.
Sinon, t'as un curry de poulet tikka masala à 1990 livres.
Honnête. Il serait capable.
C'est honnête. Voilà, je trouve ça extrêmement drôle. On nous dit, oui, l'intelligence artificielle va tout résoudre. Ça ne sait toujours pas lire un menu de restaurant,
c'était
les amis.
La rubrique bêtisier lancée par Pierre. Merci pour cette première édition.
Eh ouais, c'est une bonne idée, tiens.
On te retrouve pour la dégeekalisation. Après un troisième morceau de musique, nous allons écouter The Vow If Only. Vous écoutez les Codez-nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campusil.com. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Non, c'est pas vrai.
A lazy mid-morning slumbers into afternoon. Our last day of freedom will end all too soon. A sunny down evening, the day without rain. If only tomorrow could be like today. A sleepless night dawning, heavy heads on pillows tiered, aching from longing, communion sincere. You called out my weakness, I led you astray. If only tomorrow could be like today. Teenage dream, though society despised our youth. That isn't the word of God, just my own truth. And only the lonely know where only the lonely go. And that's into oblivion, rewind repetition. One day I'll let the memories go. If only tomorrow could be like today. A sunny down evening, a day without rain. If only tomorrow could be like today.
C'est The Vow If Only, vous écoutez les Codez-nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique c'est campuslille.com. Pardon, je suis allé un petit peu vite. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous, c'est l'heure de la dégeekalisation. Pierre, tu veux nous parler d'un client mail lourd.
Tu vois, tu t'es fait avoir déjà, c'est pas un client mail lourd, c'est un navigateur web. Le navigateur web Vivaldi nous propose un petit retour vers le passé. Donc, la petite citation bien utile pour cette dégeekalisation. Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter. Et nous en avons une magnifique démonstration cette semaine avec l'éditeur du navigateur web propriétaire, parce qu'il y en a encore, Vivaldi. Donc, c'est un dérivé de Chrome, hein, avec juste un ravalement de façade et quelques fonctionnalités en plus. Et dans les fonctionnalités qui ont été ajoutées récemment, ils ont annoncé avoir ajouté un lecteur de mail intégré dans leur navigateur web, et c'est trop révolutionnaire parce que tout le monde utilise les mails et du coup, ben c'est bien d'intégrer le lecteur de mail au sein du navigateur web. Vous trouvez pas? C'est pas génial?
Ça s'appelle Mozilla.
Plus que Mozilla, ça s'appelle Netscape. En 1995, Netscape Navigator 2.0 sortait. Alors, je retrouve la date exacte de sortie parce que c'est quand même assez cocasse. Donc, c'est sorti le 18 septembre 1995.
Ça ne nous rajeunit pas.
Non. C'était quand même il y a 27 ans. 26 ans et 9 mois. Et fonctionnalité, introduction de Netscape Mail et Netscape News, lecteur de mail et client Usenet.
Non, c'est quand même un client lourd à la base. C'est un client lourd intégré au navigateur, c'est pas un navigateur web. Enfin, c'est pas un client web.
C'est pas un client web, c'est un lecteur de mail lourd intégré dans un navigateur web. Lui-même, considéré comme client lourd aujourd'hui.
Il fait hésiter. Il dit que c'était.
C'est intégré au sein d'une même suite. Et c'est là où.
C'est quand même différent du. Le webmail.
Ah, c'est pas un webmail, effectivement. Ouais. Ça aurait pas beaucoup de sens.
Quand tu disais que c'était pas un lecteur mail, du coup.
C'est pas un lecteur mail indépendant.
Ça a laissé quand même prêter à confusion, Pierre.
Du coup, petit rappel d'histoire. Donc, dans les années 95, enfin, dans les années 90, on a eu. Les navigateurs historiques, donc ça a été d'abord Netscape qui a vraiment été assez connu jusqu'à sa version 4.08, c'est là où ça a commencé à vraiment dégringoler, et la concurrence avec Internet Explorer, donc qui est monté jusqu'à la version 5 en 99, où grosso modo, avec l'intégration à Windows, ils ont taillé des croupières aux parts de marché de Netscape. Internet Explorer, c'était que un navigateur web, mais par contre, Netscape, c'était une suite complète. Lorsque le projet Mozilla a été lancé, donc début des années 90, parce que Netscape n'était plus capable de payer le développement d'un navigateur web, parce qu'ils avaient perdu toute leur part de marché, ils avaient. C'est le fameux procès Microsoft, où, bah oui, effectivement, Microsoft a eu des manœuvres dégueulasses contre Netscape, et donc. Lorsque Mozilla s'est lancé, qui a été fondé sur la base de Netscape 6, Mozilla a intégré aussi le lecteur de mail. Et c'est seulement vers 2004, si ma mémoire est bonne, avec l'apparition de Mozilla Firefox, que Mozilla est parti sur le modèle d'avoir un navigateur web unique et pas un navigateur web qui intègre toutes les autres.
Savoir qu'en 2004, ils avaient quand même perdu la guerre des navigateurs.
Ils avaient perdu la première guerre, mais Mozilla.
Netscape avait perdu la guerre Netscape.
Tout à fait.
Explorer. Ensuite, il y a eu. Voilà. Bon, c'est vrai que ça paraît lointain. Pour moi, c'est la vraie guerre des navigateurs, c'est ça, qui a effacé Netscape. Après, bon, il y a eu le.
Ouais, mais la deuxième guerre.
L'arrivée de Firefox, et oui, voilà, c'est plutôt une guerre permanente maintenant. Il y a la concurrence à l'époque, il y avait deux navigateurs qui se effacent. Il y avait l'historique et Microsoft qui a imposé Explorer. Bon, maintenant, c'est plutôt une partie à 3 ou 4, quoi.
Oui, mais
maintenant... Plutôt à 3, maintenant.
La deuxième guerre, ça a été finalement de la chute d'Internet Explorer qui a terminé cette deuxième guerre. Maintenant, c'est effectivement, il y a une compétition permanente, il y a des escarmouches continues, si on veut, mais il n'y a plus une guerre comme avant où... Attends, à une époque, on faisait quand même.
Mais c'était pas un duel comme ça pu être dans les années 90, début des années 2000.
La première...
C'était Firefox qui a planté le premier pieu, et ensuite c'est quand même Chrome qui a réussi au final à le détrôner. Bon,
dans les années 2000.
On s'est retrouvé avec un navigateur basé de Google, ce qui n'est pas forcément beaucoup mieux.
Dans les années 2000, il y a quand même eu dans la communauté du logiciel libre, il y a eu des énormes efforts pour. Inciter les gens à cesser d'utiliser Internet Explorer. C'était une bataille continue.
Tu demandais à un site, notamment un site marchand, de pouvoir utiliser avec autre chose que Internet Explorer, on se moquait de toi, hein, il y a encore 15 ans. Hein.
Oui.
Mais vous avez qu'utilisé Explorer comme tout le monde. Bon, maintenant, au moins, ça a habitué les développeurs web, enfin, les décideurs pour les développeurs web à prendre en compte la diversité et que tu m'as plutôt maintenant respecter les standards du web.
Tout à fait.
Et le mobile aussi, parce que maintenant tu dois également gérer plusieurs navigateurs de bureau et plusieurs navigateurs sur mobile.
Tout à fait. Et pour revenir au sujet, ce qui m'amuse beaucoup avec cette histoire du navigateur Vivaldi, là, c'est qu'ils vendent aujourd'hui, et leur communiqué de presse est magnifique, hein, ils disent oui, c'est fantastique, c'est tout à fait logique, c'est parce que, ben. Alors attendez, je vais essayer de... Ah, le texte est en anglais aussi, c'est plus bien à traduire. Mais en gros, il y a plus de 4 milliards d'utilisateurs de mail. On suppose, on peut prédire qu'en 2024, ils seront 4,5 milliards. L'utilisation des mails ne fait qu'augmenter et la façon de les utiliser évolue. Et du coup, c'est difficile de gérer efficacement vos mails. Et donc, nous avons intégré Vivaldi Mail dans notre navigateur. Et moi, ce qui me fait beaucoup rire avec ça, c'est qu'au final, ben, ils réinventent ce qui se faisait avant et où on avait fini par dire non, ça c'est pas bien. Donc j'ai hâte que... Alors, est-ce que là, on, du coup, c'était la fin des navigateurs, des lecteurs de mails intégrés dans les navigateurs web, c'était il y a une vingtaine d'années. Ça a commencé vers 2003-2004. Donc, au bout de 20 ans. C'est un cycle de 20 ans. Peut-être que dans 20 ans, on dira à nouveau, ah non, les navigateurs, les lecteurs de mails complets, c'est nul, faut repasser à webmail. Mais peut-être que là, on a un cycle qui va bientôt se terminer. Moi, ça, j'en serais vraiment ravi. Le cycle de dire, tout doit être une application web. Ce cycle-là,
ça c'est... Ça va être compliqué.
Ouais, mais est-ce que tu...
Mais j'ai pas vu de renversement.
C'est-à-dire ?
De tendance. Ou
Pour l'instant, non. Mais le cycle n'est pas terminé. C'est... Est-ce que tout est cyclique ? Parce qu'on peut dire la même chose pour les terminaux lourds.
Oui, bon là, ça c'est l'exemple le plus célèbre. Hein, on est passé donc des mainframes avec toute l'intelligence, enfin, toute la puissance de calcul au niveau des grosses armoires et juste des terminaux, puis des PC individuels. Et maintenant, c'est vrai que bah, avec le cloud, hein, avec
on est revenu
à ça. Oui.
Donc peut-être qu'on va refaire un tour du cycle. Ça serait bien parce que il y a des tas de raisons en plus de faire ça. Il y a des raisons écologiques, économiques et des raisons de résilience. Si tout est centralisé, tout peut tomber.
Et c'est antinomique d'ailleurs du principe d'Internet.
C'est antinomique du principe d'Internet et on a tous des terminaux de plus en plus puissants. Mon téléphone portable a je ne sais combien de cœurs et de gigas de RAM, je ne sais même plus ses spécifications. C'est largement plus qu'il en faut pour faire tourner la plupart des applications. Il y a 10 ans, on avait moins que ça pour faire tourner nos environnements de bureau complets.
Et un sujet à faire hein, sur le gâchis de puissance de calcul.
Ben là, il est énorme avec le web, justement. Donc, vivement, la fin des applications web, peut-être au nom de la transition écologique.
Pierre, c'était le 237e numéro de l'Écho de Négnou. On se retrouve dans deux semaines. On sera donc le dimanche 26 juin à 19h, comme d'habitude. On se quitte en musique avec Talking Cure of Strange Lands on People. Au revoir à tous. Et tout de suite, on se retrouve avec Chu Pavimento.
Salut à tous, bye bye.
When I have come with happy heart to 60 years and 10, I'll buy a boat and sail away upon a summer sea. And in a little lonely isle that's far and far from men, in peace and praise I spend the days the gods allow to me. For I am weary of a strife so pitiless and vain, and in a far and fairy isle bewilderingly bright, I learn to know the lip and glow of rapture once again, and welcome every living down with wonder and delight. One white house above the singing foam, with brooding ears where joyously rich roses climb and pink, with crows and tin a double row like wine and honeycomb, and flame trees dripping golden rain and palms. And there I let the wind and wave do what they will with me, and I will dwell unto the end with loveliness and joy, and drink from out a crystal spring and eat them of the tree, as simple as a savage is, as callous as a boy.